BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Bienvenue, on vous accueille pour BFM Patrimoine, deux heures qui vous permettent de gérer au mieux votre argent. C'est en tout cas notre promesse de vous offrir le plus large spectre d'expertise au quotidien. Et on commence par un coup d'œil sur la tendance en cours à Paris grâce à Antoine Larigauderie. Que se dit-on sur les tables de marché, Antoine, ce matin ?
Il y a pas mal d'activités. Hein. Disons que c'est très agité en ce début de journée, aussi bien en avant-marché, tout a décanté à peu près une heure et demie avant le début des transactions. Ouverture qui est partie un petit peu dans tous les sens, faut bien le dire. Au final, il se passe pas grand-chose point de vue de tendance. Si on regarde le CAC 40, on est quasiment inchangé là, plus 0,01% à 6688 points. Mais alors, forte agitation autour du secteur pharmaceutique. On va voir ça. Mais alors, Sanofi et EuroAPI partent dans tous les sens. On a également des signaux de volatilité qui continue du côté de Wall Street. On l'a vu, quatrième séance de baisse d'affilée pour le S&P 500, un VIX, un indicateur de volatilité qui monte. On a eu un très net décrochage autour des prix du brut. Ça, on l'a vu également avec un baril de brut léger américain qui se retrouve au plus bas de l'année. Hier, on a eu un point bas du côté des 73 $, avec des rumeurs comme quoi un énorme fonds d'investissement aurait soldé d'un coup toutes ses positions. Bref, on a le sentiment d'un marché beaucoup plus agité que prévu en cette fin d'année. Et bon, rallye de Noël, on a quand même l'impression qu'on est sur une route où globalement tout le monde circule à peu près bien, puis d'un coup, paf, il y a un nid de poule qui apparaît. Donc, faut être vigilant, et c'est encore le cas ce matin. Alors, Sanofi, plus 7,5%, on est à 91,85€, très forte hausse, le titre a même été réservé quelques secondes à l'ouverture, hein, tellement il grimpait. Plusieurs choses autour de Sanofi. Déjà, une opinion favorable de Jefferies, le courtier américain, qui recommande de s'intéresser au titre Sanofi sur des questions de valorisation avec un objectif de cours du côté des 110 €. On a une décision favorable du côté des États-Unis concernant le Zantac, un médicament qui était censé provoquer des douleurs à l'estomac. On a également deux trois informations intéressantes sur l'ensemble du secteur pharmaceutique qui soutiennent la valeur, et du coup ça provoque cette forte hausse du titre Sanofi. Donc plus 7,5%, on est à 91,74 €. Derrière, on retrouve quoi ? Le secteur auto, hein, qui se porte bien, plus de 6 pour Renault qui est à 35,63 €. On a Stellantis plus 0,9 € à 14,59 €. Et puis un petit peu de techno aussi. Capgemini plus 0,2 € à 170,30 €. Et Téléperformance plus 1,8 € à 223,40 €. En revanche, à la baisse, et on reste dans le secteur pharmaceutique, c'est EuroAPI. Alors là, très forte déception. Le groupe a revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Et le titre perd 17,3% à 14,10 €. Les autres baisses du moment, on a Kering qui recule de 2,2% à 533 €. On a Airbus qui n'atteindra pas ses objectifs de production pour l'ensemble de l'année, mais ça, on s'en doutait. Le titre est quand même vendu ce matin, moins 2,11% à 108,50 €. On termine par les cryptos. Il y a eu un très très net décrochage juste avant l'ouverture des marchés, une heure avant l'ouverture des marchés, et ça se poursuit. On avait bien conquis les 17 000 $ sur le Bitcoin. Là, on descend à 16 800, 1228 pour l'Ether qui s'approchait des 1300. Et l'XRP qui redescend, alors loin sous les 38 cents, on est à 37,88 €. Bref, un début de séance vraiment en trompe-l'œil parce que le CAC 40 est quasi inchangé à plus 0,06% à 6691 points, mais vous avez vu, ça part un petit peu dans tous les sens. Du côté de l'euro-dollar, on est redescendu sous 1,05, 1,0477, Cédric.
Merci beaucoup Antoine. Antoine Larigauderie, chaque matin pour prendre le pouls de cette première heure de cotation depuis le siège d'Euronext à La Défense.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
Mathias Desmarais est en ligne avec nous depuis Oddo BHF. Bonjour Mathias.
Bonjour Cédric.
Merci de nous répondre donc depuis Oddo BHF. Vous nous proposez ce matin un coup d'œil sur Assystem. Est-ce qu'on peut commencer par un petit portrait ?
Bien sûr, j'en avais déjà parlé un petit peu plus tôt dans l'année, mais Assystem est donc une société d'ingénierie avec un gros focus sur le marché du nucléaire, qui représente 70% de son chiffre d'affaires. Donc pour nous, le groupe est idéalement positionné pour accompagner la relance du nucléaire dans plusieurs pays, notamment sur toutes les phases d'études et de conception et de mise en service de nouveaux réacteurs EPR. On sait qu'en France, il y a un plan assez agressif sur ce sujet.
Voilà donc pour le portrait de ce groupe Assystem. Maintenant, rentrons un petit peu dans le détail. Qu'est-ce qu'on peut dire de son état de santé, des perspectives qui sont devant le groupe ?
Alors, il y a deux points à mettre en avant, Cédric. Tout d'abord, le titre est un des plus défensifs au sein de la couverture du secteur des services IT et d'ingénierie en France, hein, de par son exposition sur des segments acycliques et vraiment stratégiques dans un contexte de transition énergétique. Deuxièmement, les perspectives sont pour 2023 sont très favorables, puisque on attend une accélération de la croissance organique, et c'est probablement une des seules sociétés aujourd'hui sur ce segment qui devrait avoir cette accélération à venir, notamment sur le nucléaire, avec une base favorable, le démarrage de certains gros contrats, notamment un en Arabie Saoudite, et aussi tout le soutien de la rampe de croissance assurée par le grand carénage EDF, vous savez, tous les programmes de maintenance et de prolongation de la durée de vie des centrales existantes en France.
Voilà donc pour le cadre dans lequel évolue ce titre Assystem. Est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre en avant en termes de revalorisation ?
Alors, il y a deux éléments importants à mettre en avant. Tout d'abord, une visibilité à moyen terme, donc sur le programme nucléaire, notamment en France. Je vous rappelle qu'on a une décision de construire 6 EPR qui a été prise, 8 additionnels à l'étude. Et donc là, très très clairement, ça va être c'est un game changer sur le profil de croissance et de rentabilité du groupe. Donc on pense qu'un système pourrait aujourd'hui capter un chiffre d'affaires total de l'ordre de 900 millions d'euros additionnels d'ici à 2040. Deuxième élément, c'est que le groupe pourrait monétiser certaines participations financières sur les deux prochaines années. Il détient 38% du capital d'Expleo, qui est un acteur européen de la R&D externalisée, et aussi une participation de 5% dans Framatome. Donc nous, on pense qu'il y a un upside théorique additionnel de l'ordre de 6 euros par action en cas de cession de ces participations. Dernier point important, c'est que en cas de cession, évidemment, le profil un peu pure player de Assystem pourrait même rendre plus matériel un éventuel scénario spéculatif sur le titre.
Est-ce qu'il y a des points, enfin, quand on parle d'un titre, il y a toujours quelques points de vigilance ou d'attention à avoir en tête. Est-ce que c'est le cas là aussi ?
Alors, le principal point de vigilance, en fait, finalement, c'est sur l'évolution des marges, notamment en 2023, puisque afin de soutenir son carnet de commandes, le groupe va probablement devoir recruter des personnels en avance de phase. Aujourd'hui, ça nous semble bien intégré par les investisseurs. Je pense qu'il faut, c'est peut-être le point de vigilance à avoir, mais en tout cas, nous, on pense que très clairement, cette petite faiblesse temporaire sur les marges pourrait être plus que compensée par une croissance du chiffre d'affaires qui pourrait s'avérer bien nettement supérieur aux attentes.
Qu'est-ce qu'on se dit en termes de reco et d'objectifs de cours ?
Alors, nous sommes à l'achat avec un objectif de cours de 47 euros, sachant que aujourd'hui, le cours actuel valorise le cœur de métier du groupe à moins de 10 fois le résultat d'exploitation. C'est une décote de 30% par rapport à ses comparables.
47 euros donc visés ce matin, c'est-à-dire plus haut que les plus hauts récents du titre. Titre Assystem qui cote 39,30 euros ce matin, en hausse de 0,77% dans un marché qui fait quasiment du surplace. Merci beaucoup Mathias. Mathias Desmarais donc depuis Oddo BHF.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Laetitia Baldeschi nous attend chez CPRAM. Bonjour Laetitia.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous ce matin. Vous nous emmenez en Chine puisque Pékin a finalement annoncé un allègement général des règles sanitaires contre le Covid. C'est un bon point, j'imagine.
Oui, enfin, finalement, ils y ont été contraints. Hein. Il est clair que l'agitation sociale observée depuis quelques semaines changer la donne pour les autorités, et il fallait reprendre le contrôle de la situation. Je crois qu'il y a ça, et puis il y a des chiffres économiques qui sont de plus en plus mauvais, publiés concernant l'activité du pays. Notamment ce matin, hein, on avait les chiffres du commerce extérieur avec une chute des exportations de 8,7% sur un an. On voit bien que c'est même le moteur extérieur ne fonctionne plus et ne va pas permettre à l'économie chinoise de passer cette phase de crise sanitaire. Donc, ils n'avaient pas le choix. Et cette annonce, elle fait suite à la réunion du bureau politique de la Chine qui a eu lieu hier. Et qui est vraiment, c'est la réunion importante, puisque c'est celle de décembre qui permet d'envisager les grandes tendances de l'économie pour l'année 2023. Et force est de constater que la situation et le point de départ de 2022 étaient particulièrement mauvais. Donc je crois que le bureau politique n'avait pas d'autre choix que de commencer à suspendre les contraintes sanitaires.
Bon, donc, ok, politiquement, le cadre est posé. Est-ce que maintenant, économiquement, pour vous, c'est une bonne nouvelle ? On a pointé maintenant depuis des mois, pour ne pas dire plus, la politique zéro Covid comme une des principales explications aux doutes économiques chinois.
Clairement, ça a freiné, ça a empêché tout rebond d'activité tiré par la consommation, ce que l'on a pu observer ailleurs dans le monde. Mais l'essentiel, certes, c'était évidemment les mesures contraignantes, puisqu'il fallait un test pour entrer dans un restaurant, vous n'alliez pas au restaurant, donc voilà, c'est très clair. Maintenant, il y a aussi, et il me semble que c'est là quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est une problématique de revenus et de confiance des ménages. La confiance des ménages s'est effondrée littéralement depuis 3 mois et la croissance des revenus, elle est très, très faible. Très faible, pourquoi ? Parce que contrairement à ce qui s'est passé évidemment dans les économies développées, mais même dans certaines grandes économies émergentes, je pense notamment au Brésil par exemple, il n'y a pas eu le soutien direct au maintien des revenus des Chinois pendant les phases de confinement. Et de fait, ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas eu de revenus. Donc même si on réouvre, il va falloir d'abord qu'ils retravaillent et qu'ils retrouvent un peu de confiance avant de pouvoir consommer de manière massive. Alors évidemment, je parle du Chinois de la classe moyenne. Et il y a évidemment les riches Chinois qui, eux, pourront retourner très vite dans les magasins de luxe. Mais en revanche, ce qui fait la masse de la consommation chinoise, eh bien celle-ci risque de mettre plusieurs mois à retrouver un rythme de croissance comparable à ce que l'on avait avant la crise sanitaire. D'où le fait d'une certaine prudence, en tout cas chez CPRM, nous restons très, très prudents sur l'évolution future de la croissance chinoise. Alors on parle d'un nouvel objectif de croissance officielle autour de 5%, c'est ce qui semble sortir des premières discussions. Je vous rappelle que ce chiffre sera officiellement annoncé au mois de mars prochain, mais 5%, c'est déjà en soi un niveau de croissance assez élevé qui sous-tend un rebond de la demande intérieure.
Voilà donc quelques idées à avoir en tête au sujet de cette Chine qui décide donc d'être un petit peu plus tolérante sur le front sanitaire. Merci beaucoup Laetitia Baldeschi, donc CPRAM, qui nous accompagne régulièrement. Petit coup d'œil du côté du marché parisien qui se cherche un petit peu ce matin. On grignote 0,01% à 6688 points.
Votre rendez-vous avec Empruntis, courtier en crédit et assurance. Empruntis.com, 160 agences partout en France.
BFM Business, BFM Patrimoine, le club IMO.
Le club de la presse immobilière qui, cette semaine, réunit Barbara Kirali. Bonjour Barbara.
Bonjour Cédric.
Pour le Moniteur et Bérénice Deville. Bonjour Bérénice.
Bonjour Cédric.
Pour Radio Immo, merci à toutes les deux de répondre présentes. D'abord, on commence avec vous Barbara par un petit point marché. Enfin, on va voir un petit peu la vision que vous avez toutes les deux de ce qui se passe en ce moment sur notre marché IMO fin d'année. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Barbara ?
Fin d'année qui a ralenti, gentiment, mais sûrement. C'est assez calme. Alors, sur les chiffres du gouvernement, c'est toujours la même chose. On a des bons chiffres. 500 000, 700 permis de construire qui ont été autorisés. 380 000, 800 mises en chantier qui ont été lancées entre novembre 2021 et octobre 2022. Donc, ce sont des super chiffres. Si on regarde les chiffres un peu plus, de façon plus rapprochée, sur les 3 derniers mois, ce qu'on voit, c'est que les dépôts de permis de construire baissent et qu'ils baissent depuis l'été. Ils sont en recul de 13,2% entre août et octobre 2022 par rapport du coup à mai et juillet. Et ça, c'est lié au fait que ce qu'on a appelé l'effet RE 2020, qui a boosté les dépôts de permis de construire depuis le début de l'année.
Vite, construisons simplement.
Exactement. Enfin, simplement, en tout cas avec les anciennes règles, s'estompe. Au 31 décembre 2021, que je ne me mélange pas avec les années, les promoteurs immobiliers se sont dépêchés en fait de déposer leur permis de construire avant le 1er janvier 2022 pour échapper à la réglementation environnementale, qui est une nouvelle réglementation qui vise à baisser les consommations d'énergie et baisser les émissions de carbone. Les promoteurs immobiliers, qui est représenté par la Fédération des promoteurs, la FPI, nous dit que non, il n'y a jamais eu d'effet en 2020. Les promoteurs ne voulaient pas du tout échapper à cette réglementation.
Oh non.
Ils arguent le fait que les programmes sont conçus bien en amont et qu'il était très difficile de restructurer le programme pour le faire coller avec cette réglementation qui peut être très ambitieuse au regard des programmes qui sont parfois lancés. Donc, ce qu'on observe, c'est que quand même, il n'y a jamais eu autant de dépôts. Le problème, c'est qu'ils déposent, mais que les promoteurs immobiliers ne vendent pas. Au troisième trimestre, ils ont vendu 23 000 logements. 23 000, c'est moins 30% par rapport au troisième trimestre 2021. Ils ont un peu plus de 90 000 logements qui sont aujourd'hui disponibles à la vente. Ça reste assez stable. Les chiffres, je vous les ai donnés la semaine passée, hein, grimpe. On est à plus de 5 000 euros du mètre carré en province. On est à plus de 6 000 ou 8 000, je ne sais plus, entre 6 000 et 8 000 en Île-de-France. Bref, on attend des plafonds. Et les particuliers n'ont plus les moyens d'acheter. Mmh. Les investisseurs non plus. Et acheter sur le CIMI toute la journée. Officiellement, tout va bien. On fait des cocktails, on est à la fête, c'est la fin de l'année, on a passé l'année, on anticipe une belle année 2023. Officieusement, on vous explique quand même que les investisseurs ont le crayon levé, qu'ils regardent la rentabilité des programmes parce que tout flambe. Les prix de sortie flambent à cause des matériaux qui augmentent, de l'énergie qui augmente. Officiellement, on nous dit que le ROI, c'est plus l'indicateur le plus important. Ce qui va intéresser, c'est la performance énergétique. N'empêche que, dans les faits, les grands investisseurs, eux, ce qu'ils attendent, c'est des programmes rentables. Et donc, du coup, bah, ils sont plus au rendez-vous. Et il y a même une étude de Price qui est sortie hier, qui expliquait qu'il y avait des programmes qui allaient même être reportés. Alors, on est plutôt sur le tertiaire avec l'étude de Price. Mais tertiaire, logement, finalement, c'est un peu sur le même bateau avec ces grands investisseurs qui se retirent.
Bon, on rappelle, le CIMI, c'est le grand salon de toute l'industrie française de l'immobilier. Comment est-ce que vous voyez ce contexte-là ? Parce que bon, il n'y a pas que le neuf, il y a l'ancien aussi. Enfin voilà, comment voyez cette fin d'année, Bérénice, se profiler sur ce monde immobilier ?
Alors là, on voit clairement que ça commence à se ralentir. Je rejoins totalement Barbara qui disait que bon, officiellement, certains discours disent que voilà, tout va bien. Cependant, on entend quand même d'autres professionnels dire qu'il y a un ralentissement. Ouais. Les promoteurs, vous les citiez tout à l'heure, sont très inquiets. Pascal Boulanger, le président de la FPI, de la Fédération des promoteurs immobiliers, l'a clairement dit. Les chiffres sont dans le rouge. C'est pire que l'année du Covid, que l'année 2020. Donc voilà, vous l'avez dit aussi, Barbara, il y a moins de demandes. Il y a une baisse des offres, de l'offre, mais il y a aussi une baisse des demandes. Donc les deux sont corrélés. Donc voilà, prudence pour 2023. Après, nous, donc on était présents avec Radio Immo également au congrès FNIM, le congrès de la Fédération nationale de l'immobilier. Et c'est vrai que, pareil, deux sons de cloche, les gros réseaux, on va dire, se veulent plutôt rassurants, enfin, essayent d'être, d'être rassurants, de garder espoir, en disant que c'est une crise que l'on va passer. Après, voilà, les agents immobiliers indépendants sont peut-être un peu moins rassurés. Donc, affaire à suivre. En tout cas, je pense que tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut aborder l'année 2023 avec prudence.
Voilà donc pour ce contexte, d'autant que on s'aperçoit, Bérénice, qu'il y a une chute des prix de l'immobilier, on en parle parfois ici et de plus en plus régulièrement, qui s'observe chez nous, mais pas que chez nous.
Tout à fait. Alors on parle beaucoup des prix en France, un ralentissement des transactions, donc on l'a dit, commence à se faire ressentir, et puis un recul de la valeur donc des biens immobiliers. Plusieurs causes, vous l'avez mentionné, le durcissement des conditions d'accès au crédit, ainsi que la remontée des taux d'intérêt, forcément. Donc pour le reste du monde, même son de cloche, la chute des prix de l'immobilier est constatée donc dans de nombreux pays. C'est ce qui est tombé cette semaine. D'autant plus que cela s'ajoute la crise énergétique qui nous touche tous, couplé à une inflation galopante qui grignote de plus en plus le pouvoir d'achat des futurs acquéreurs. Donc l'envolée des prix, c'est fini. Sur votre plateau, certains économistes d'ailleurs parlent d'une possible récession. Affaire à suivre. En tout cas, le marché immobilier mondial risque de se retourner. Alors, quelques chiffres. En Suède, par exemple, c'est tombé donc cette semaine, hein, c'est Le Figaro, nos confrères qui ont sorti ces chiffres. Les maisons individuelles sont un peu, n'intéressent plus trop les Suédois parce que déjà elles sont compliquées à chauffer. Résultat, 14%, une baisse de 14% hein, des prix de l'immobilier en Suède. Donc 14%, c'est pas négligeable. Au Royaume-Uni, pareil, chute des demandes concernant le marché résidentiel, moins 44% des demandes. Donc 44%, c'est énorme. Par conséquent, on constate aussi une chute des ventes. Donc là, on constate moins 28% pour les ventes. Depuis quelques mois, les prix de l'immobilier donc baissent, comme en France, au Royaume-Uni. Le gouvernement pense que d'ici 2023, on constatera une baisse de 9% concernant ces prix. Donc ça va continuer à chuter. Les prix baissent chez nos voisins en Allemagne. Ils baissent aussi un peu plus loin au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, aussi aux États-Unis. Alors, ce qu'il faut bien noter, c'est qu'à chaque fois, c'est différent en fonction des villes dans les pays. Par exemple, il y a des villes plus impactées que d'autres. Par exemple, Wellington et Auckland en Nouvelle-Zélande sont très impactées. En Australie, Sydney et Melbourne sont impactées. Et Toronto au Canada, Santiago au Chili, voilà, pour vous donner quelques exemples de villes impactées. Il y a un cabinet indépendant qui s'appelle Oxford Economics, qui est spécialisé dans les prévisions économiques et les études quantitatives, qui a analysé 18 marchés, donc les principaux marchés avancés. Oui. Et donc, un constat assez alarmant, les prix baissent dans la moitié des cas. Voilà, selon le cabinet, donc certains pays vont connaître une petite baisse, alors que l'autre, ça va être une baisse beaucoup plus importante, de l'ordre de 15 à 20%. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une tendance qui n'est pas uniforme à chaque fois. Hein. Dans certaines villes, c'est plus prononcé que d'autres. On va parler aussi du FMI, le Fonds monétaire international, hein, qui veille, je le rappelle, à assurer la croissance et la prospérité de ses États membres. Hein, il y en a 190. A publié donc un rapport en octobre sur la stabilité financière, et dedans, il parle d'un point de basculement donc de l'immobilier mondial qui pourrait se traduire par une chute qui peut aller jusqu'à moins 25% des prix de l'immobilier dans les pays émergents, dans le marché émergent, et plus de 10% dans les pays avancés.
Ça veut dire que c'est quoi, on change de cycle, c'est quoi, Barbara, parce que c'est pas hyper réjouissant.
Moi, je serais peut-être un tout petit peu plus tempérée parce que, enfin. La semaine passée, il y avait le Conseil national de la refondation. Il y a l'économiste en chef du Trésor qui est venu donner des datas. Donc, elle en a donné plein. Et parmi ce qu'elle disait, ce qui était assez intéressant, c'est qu'en France, on a quand même une pierre dans le ventre. Les Français sont très attachés à l'immobilier. Et que quand on rentre dans une période de récession, on a plutôt tendance à se raccrocher à la pierre parce que c'est ce qui est le plus tangible. Donc, je pense que cette appétence des Français pour la pierre pourrait limiter.
Bien sûr, sauf que le cycle, il avait quand même été soutenu par ce qu'on appelle bol sangria, quoi. C'était l'argent gratuit quand on voulait, comme on voulait.
Et les autres ne sont pas tous comme les Français. C'est vrai que vous l'avez dit, hein, les Français adorent la pierre, c'est vraiment une valeur refuge pour eux. Mais dans d'autres pays, ce n'est peut-être pas le cas. Enfin, en tout cas, pas autant qu'en France. Après, attention, on est loin, les économistes le disent, on est loin de la crise de 2008. Ouais. On n'en est pas là encore, hein, évidemment.
On peut segmenter vraiment la planète.
Je crois beaucoup. Ouais. Je ne sais pas si on peut segmenter vraiment la planète. Mais je veux dire beaucoup aux anticipations créatrices.
Le nuage s'arrêtera
à la
frontière.
C'est pour ça que les réseaux disent, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Non, le nuage s'arrêtera pas à nos frontières, mais. Enfin, si on crie au loup et qu'on explique que tout va mal se passer, évidemment, tout va mal se passer.
Non.
Si on dit que tout va bien, évidemment qu'on va limiter la crise. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas des baisses des prix. Je ne vous dis pas que ça ne va pas être compliqué en 2023. Je viens de vous expliquer en début partie que les investisseurs ne seront pas au rendez-vous. Donc, et qu'il y a des projets qui vont être reportés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Price. Donc oui, il va y avoir un effet de récession. Il va y avoir des baisses de prix. Aller jusqu'à moins 25%, j'espère pas. Hein. Moi, je suis propriétaire, je parle de ça.
Ça dépend des endroits, évidemment, il y a une forte disparité. Après, certains, on a rencontré pas mal sur Radio Immo, pas mal de professionnels, donc de têtes de réseau, qui nous disent que c'est un certain rééquilibrage aussi, que les prix étaient montés tellement haut qu'on était à des niveaux extraordinaires et que voilà, c'est des cycles en fait. Et donc là, il y a un espèce de rattrapage, une régulation du marché qui s'opère et qui est au final normale.
Voilà, je préfère qu'on parle de régulation.
Mais
de chute. c'est vrai que 5% de la valeur patrimoniale des Français et des, même des gestionnaires qui ont des portefeuilles énormes. Enfin, c'est ben voilà, faut faire attention quand même à ce qu'on dit.
Allez, on marque une petite pause comme chaque semaine dans ce club IMO pour retrouver nos traders Nicolas Dose et puis bien évidemment, on revient dans ces problématiques immobilières, le marché parisien dont on va parler dans un instant grâce à nos deux traders. Eh bien, il est assez hésitant et on va voir comment on pourrait dessiner la tendance de la journée. À tout de suite.
BFM Business, l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Chaque jour à 10h30, deux traders lisent la séance du jour pour vous donner leur clé graphique. On retrouve Mathieu Serron depuis Perceval Finance Conseil. Bonjour Mathieu, merci d'être au rendez-vous. Et on retrouvera dans un instant aussi Gilles Santacreux depuis boursicoté.com. Commençons avec vous Mathieu. Que dire de cette nouvelle attaque de séance hésitante?
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, hésitante, et que nous abordons toujours en travaillant principalement à l'achat, en achetant le plus proche possible de 6660-70, c'est la zone sur laquelle le CAC rebondit ces dernières heures. Donc on achète dans cette zone-là pour essayer de vendre 20-30 points au-dessus. Donc la tendance de fond reste bien évidemment haussière, même si on a eu un repli ces derniers jours, c'est pas bien méchant, il y a aucune remise en question de quoi que ce soit bien évidemment. Sur le CAC, il faudrait au moins casser les 6550-6525 pour envisager une première remise en question, mais on n'en est pas là, il y a de la marge. Et je pense qu'il ne faut pas s'attendre à grand-chose dans les prochains jours, dans la mesure où la semaine prochaine va être très chargée, avec mardi les CPI aux États-Unis, mercredi la Fed, jeudi la BCE et vendredi l'échéance trimestrielle. Donc on peut s'attendre, je pense, à des séances d'aujourd'hui, demain et après-demain assez calmes, mais il y a quand même des choses à faire. Il y a des mouvements aussi qui sont violents à l'image de ce que nous fait Sanofi ce matin suite au rejet d'une plainte donc aux États-Unis. Donc les labos pharmaceutiques sont plusieurs à rebondir violemment aujourd'hui. Sanofi pèse 6% environ dans le CAC, elle prend 6-7%, donc ça fait un impact de 0,35-0,40% sur l'indice CAC 40, ce qui permet une nouvelle fois au CAC de surperformer. Vous voyez, il y a toujours une valeur ou un secteur qui permet au CAC de se comporter mieux que les petits copains. Quand c'est pas les valeurs du luxe, eh bien c'est Total, et quand c'est pas Total, eh bien c'est Sanofi. Donc ça, c'est à remarquer, la nette surperformance du CAC 40 par rapport aux autres indices, et notamment par rapport aux indices américains, avec des marchés américains qui sont davantage vulnérables à cause de multiples de valorisation plus élevées que sur les marchés européens. Et hier, vous avez encore une valeur comme Meta Platform, qui a perdu 7%, donc il y a quand même des baisses qui sont fortes. On sent énormément de méfiance, et c'est normal, même si pour l'instant les marchés voient le côté plein du vert et se disent que les politiques monétaires vont toujours être accommodantes. Attention au contre-coup à un moment donné, lorsque justement les investisseurs seront persuadés que ces banquiers centraux seront durablement agressifs. Donc attention à tout ça, peut-être pour le début d'année prochaine. Pour l'instant, il semblerait qu'on ait une sorte d'autoroute, sauf surprise du CPI. Et là d'ailleurs, d'accord, dans cet esprit-là, il va falloir mettre en place des stratégies. Nous, en début de semaine prochaine, on va mettre en place des stratégies pour jouer le CPI et jouer des fortes variations, parce que lors des précédentes publications, les écarts ont été très importants.
On rappelle que le CPI, c'est l'inflation, bien évidemment, que l'on attend. Gilles Santacreux, depuis boursicoté.com, comment vous voyez les choses se décanter ou pas sur cette nouvelle entame hésitante du marché parisien?
Alors, je parlerai pas trop d'hésitation, je parlerai plutôt d'équilibre. On est entre actuellement, donc, et Mathieu l'a très bien dit, entre deux pressions. On a du côté de la Chine donc des bonnes nouvelles, puisqu'on a un assouplissement des mesures sanitaires, et puis on a du côté des États-Unis donc certaines inquiétudes, et notamment au niveau des banques, du secteur bancaire des États-Unis qui commence à inquiéter. Et d'un autre côté, on a eu des perspectives de ralentissement de la hausse des taux du côté de la Fed qui ont un petit peu été refroidies, on dira, par des très bons chiffres macro en ce qui concerne la production et les chiffres du chômage. Il faut pas oublier que le CAC 40, il a monté de quasiment 20% entre début octobre et fin novembre. Qu'en absence de catalyseur, on est ressorti sur une dynamique qui s'est totalement neutralisée, mais en absence de consolidation. Donc on est sur cette phase d'équilibre, on a des niveaux qui sont relativement lisibles. Hein. En zone de résistance, on a 6750 points, on a tenté un débordement de cette zone la semaine dernière, mais on est vite redescendu. Et en zone de support, on a 6650. Au niveau de mes algorithmes, on a donc cet équilibre hein, qui est visible aussi en termes de calcul de probabilité avec un risque de consolidation. Mais ce risque de consolidation, on a pu le voir hier soir hein, au moment où j'effectuais mon analyse donc du soir. On tentait une cassure des 6650 sur le futur. Et puis tout s'est rééquilibré dans la nuit. Et puis là, on est autour des 6007. Donc globalement, on voit que cet équilibre semble plus ou moins plutôt solide hein. C'est-à-dire qu'on a en absence de catalyseur, cette absence de consolidation nous montre que l'on est quand même sur un socle qui pourrait tenir jusqu'à la fin de l'année. Pour ceux qui parlent du rallye de fin d'année, on pourrait penser que ce rallye, il a eu lieu d'une manière un petit peu anticipée et que cette hausse que l'on a connue à l'automne, eh bien, pourrait limiter justement le potentiel haussier de cette fin d'année. Donc, les niveaux pour aujourd'hui, 6650 est toujours un niveau qui donne des bonnes réactions sur l'indice. Et puis, sur une rupture des 6751 points, eh bien, on aurait un signal de reprise du mouvement haussier qui pourrait apparaître.
Merci beaucoup à tous les deux. Deux traders chaque jour pour lire graphiquement la séance du jour. Donc Mathieu Cerrone depuis Perceval Finance Conseil et Gilles Santacreux chez Boursicoté.com. On vous retrouve hein, tout à l'heure Gilles et on voulait suivre cette séance. Rendez-vous est pris 11h30.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose pour la polémique du jour. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Ouverture des négociations salariales à SNCF, comment ça se présente ?
Par une grève.
Ah bah.
Ben voilà, par une grève. Bon, il y a des perturbations. Visiblement, les Paris-Lyon, c'est très compliqué. Il y en a 5 dans la journée, je pense. C'est quand même pas beaucoup. Le cas de la SNCF, c'est vraiment un cas à part. C'est une entreprise qui est complètement sous perfusion d'argent public. Fipeco.fr, comme tous les ans, a regardé. 18 milliards d'euros, ils ont reçu du contribuable, finalement, de l'État ou des régions en 2022. Et puis, effectivement, ça fait partie de ces entreprises où la grève précède souvent la négociation. C'est quand même assez particulier.
Une grève préventive, quoi.
C'est ça. Alors, c'est pas exclusif SNCF, on l'a vu chez Total Energy. Même d'ailleurs, avec la forte inflation en ce moment, il arrive qu'il y ait quand même des tensions sociales assez importantes dans les entreprises avant l'ouverture des négociations. Mais attention, la SNCF a déjà fait le goût de la grève préventive en juillet. Ils ont obtenu plus 3,7%. Et si vous ajoutez le résultat de la négociation annuelle obligatoire de novembre 2021, sur un an, on est déjà maintenant à plus 5,8% à la SNCF. Alors la direction de la SNCF n'a avancé aucun chiffre. La particularité, c'est que 2022, pour une fois, est une bonne année pour la SNCF. TGV a bien fonctionné et la logistique avec Géodis rapporte beaucoup d'argent, alors que les deux années Covid précédentes ont été absolument catastrophiques. Bon, 2023 va être plus rude, parce qu'il y aura la facture énergétique, même si c'est du contrat de long terme avec des effets lissés, il y aura quand même une hausse de la facture énergétique. Et puis, il y a le fameux bouclier tarifaire qui a été un petit peu poussé par le gouvernement pour la SNCF, ce qui fait que ça limite la hausse, je dis bien moyenne, hein, la hausse moyenne des billets en 2023 à plus 5%. Mais encore une fois, la SNCF, c'est pas une entreprise comme les autres. Vous savez, on a souvent parlé de gréviculture. J'ai gardé en mémoire cette phrase merveilleuse de Louis Gallois, on est en 2004, et on lui demande, alors dites-nous Louis Gallois, quel est le climat social à la SNCF, l'état du climat social ? Il avait répondu, vous savez, 8 ans passés à la tête de la SNCF, ça vous vaccine contre l'optimisme. Ah. Donc ça n'a pas tellement changé. Et alors là, on a eu les données ouvertes de la SNCF qui indiquent qu'il n'y a pas eu une seule année depuis la naissance de la compagnie en 1947 qui n'a pas été émaillée par des grèves, et que depuis 1947, les différentes grèves ont coûté quand même 30 millions de jours de travail perdus.
Donc le fruit des négociations qui s'ouvrent à la SNCF n'est pas représentatif de ce qui attend la majorité des salariés.
Absolument.
En 2023
non, ça n'a rien à voir, pas plus que ce qui s'est passé chez Air France ou chez Total Energy. On sait qu'en moyenne, la hausse de salaire des salariés du privé pour 2022 est de 3,7%. Et là, on a eu les derniers chiffres du cabinet de ressources humaines Alixio, qui interroge plusieurs centaines de DRH, pour arriver à l'idée que les négociations annuelles obligatoires actuelles devraient conduire à une hausse 2023 de 4,5%. Sur la même question en septembre, le même cabinet Alixio voyait 2023 à 4,3%. Donc maintenant, ce serait 4,5%. Alors là, on parle de salaire, mais ça ajoute à ces hausses de salaire très fréquemment la fameuse prime de partage de la valeur, la prime Macron, où là, on pourrait avoir un niveau moyen de quelques 1000 euros en 2023, donc supérieur au niveau observé jusqu'ici. Le montant des tickets resto a été revu à la hausse. Les prises en charge de transport ont été revues à la hausse. Alors d'accord, ça n'est pas du salaire, ça n'ouvre pas de droits sociaux. Enfin, ça reste quand même malgré tout du pouvoir d'achat. Et à l'arrivée, pas mal de salariés du privé, avec les hausses de salaire et les améliorations de pouvoir d'achat, devraient à peu près pouvoir compenser l'inflation. Chose nouvelle aussi en 2023, on va voir le grand retour des augmentations collectives et plus simplement individuelles. Et ça devrait notamment toucher les cadres.
Voilà donc pour ce premier point salaire. Et puis, comme on parle pouvoir d'achat, un petit mot aussi sur les contours de cette nouvelle aide carburant dévoilée ce matin par Elisabeth Borne sur RTL.
La grande idée, c'est que c'est une mesure ciblée. C'est terminé la ristourne pour tous qui, vous le savez, de 10 centimes passe à zéro le 31 décembre. Donc on aura un chèque carburant de 100 euros versé en une fois début 2023. Il y aura 10 millions de bénéficiaires. Ce sont uniquement des gens qui travaillent. Donc si vous êtes chômeur ou retraité, vous n'êtes pas éligible. Des gens qui travaillent et qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, ça fera à peu près la moitié des ménages français qui devraient en bénéficier. Un couple qui travaille et qui est éligible avec deux voitures, ça fait 200 euros quand même. Donc l'aide est équivalente à 10 centimes de ristourne par litre en 2023, dans la mesure où on fait 12 000 km, qui est à peu près la distance moyenne parcourue. Donc 10 centimes par litre, ça veut dire que ces gens-là garderaient finalement l'équivalent de la ristourne actuelle qui est accordée par le gouvernement. Pour en bénéficier, on va sur le site des impôts, on renseigne son numéro fiscal, on renseigne sa plaque d'immatriculation et on fait une déclaration sur l'honneur sur le fait qu'on prend sa voiture pour aller travailler. Terminer le gros
hyper
rouleur.
Simple.
Voilà. Terminer le gros rouleur. On n'est pas obligé de justifier de l'adresse de son employeur. Voilà. 100 euros directement crédités sur le compte en banque. Ça va coûter 1 milliard d'euros aux finances publiques en 2023. C'est là où on voit quand même la différence avec les aides non ciblées. La ristourne depuis avril jusqu'à fin 2022, c'est pratiquement 8 milliards par mois. 1 milliard par mois. Et là, on est sur 1 milliard pour l'année. Et donc, ce chèque carburant, bien sûr, s'ajoute au chèque fuel si vous êtes éligible, au chèque énergie si vous êtes éligible, et au bouclier tarifaire qui, lui, bénéficiera encore à tous les Français, limitant la hausse de la facture d'énergie à 15%. Donc, les deux éléments à retenir, c'est que le pouvoir d'achat sera en partie protégé en 2023, mais moins qu'en 2022 et les années précédentes. Ça veut dire que l'État assureur tout risque quand même commence à toucher un peu ses limites. Et que là, on passe enfin à ce que tous les économistes, de gauche comme de droite, plébiscitent depuis le début des aides ciblées et pas des aides universelles comme ce qu'on a fait dans l'urgence.
Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci beaucoup, Nicolas. Dans un instant, on poursuit bien évidemment nos échanges immobiliers. Et puis, notez d'ores et déjà, à 11h35, Marie-Eugénia Sanin pour parler de matière première.
Retrouvez votre rendez-vous avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974 et à vos côtés en France depuis 2007.
Le marché parisien qui, pour le moment, eh bien, a opté pour la baisse. On perd 0,3%, 6667 points. La tendance européenne est encore un peu hésitante, moins 0,03%. Pour l'Eurostock 50, les plus forts reculent, Kering, Alstom et Airbus. Du côté des hauts, Sanofi, Renault et Téléperformance. L'Eurodoll est à 1,0472.
Votre rendez-vous avec Empruntis. Courtier en crédit et assurance. Empruntis.com, 160 agences partout en France.
BFM Business, BFM Patrimoine, le Club Immo.
Club Immo qui revient avec toujours autour de la table Barbara Kirali pour le Moniteur et Bérénice Deville pour Radio Immo. On parle de Bouygues Immobilier. Barbara qui lance Nouveau Siècle.
Nouveau Siècle.
Kezako.
C'est une filiale. C'est Nouveau Siècle, c'est une filiale de Bouygues Immobilier qui sera dédiée à la rénovation et la restructuration d'immeubles patrimoniaux. Ils lancent une première opération à Metz sur l'ancien immeuble Le Printemps. Ils vont y développer 89 logements et 600 mètres carrés de locaux commerciaux. L'idée, c'est de se dire qu'avec le zéro artificialisation net, qui est un objectif que s'est fixé le gouvernement, le foncier de demain, c'est en fait le foncier qui est déjà bâti et qui a restructuré.
On rebâtit sur soi-même, quoi.
On reconstruit la ville sur la ville, exactement. Et surtout, on fait avec ce qui existe déjà et avec les matériaux qui existent déjà. Parce que l'idée, c'est pas de déposer l'immeuble et d'en refaire un nouveau. Non, c'est de conserver les matériaux nobles et de développer un projet assez haut de gamme. Leur ambition, donc, c'est de développer 150 logements en commercialisation dès 2023. On voit que l'objectif va être assez facilement atteint, vu qu'ils sont à 89 logements déjà dans les tuyaux. 700 logements d'ici à 2029, avec une montée en puissance progressive. Au minimum, tous les logements développés seront en étiquette D. Ça, ça permet en fait à tous ceux qui achèteront ces logements d'échapper au couperet de la loi climat et résilience, même si chez Bouygues Immo, on me dit que quand on intervient sur du patrimoine, enfin du patrimoine historique, on échappe de toute façon à ces réglementations, mais je pense que c'est pour voilà, ne pas brouiller le marché, ne pas brouiller les signaux auprès des acheteurs. Et puis surtout, Nouveau Siècle pourra travailler en copromotion avec Bouygues Immobilier, parce que parfois, il y a des emprises foncières qui sont plus importantes où on restructure un immeuble déjà existant et on en développe un neuf à côté. Ça va être un petit peu cher. Bon. Un 5 pièces avec terrasse à Metz, ce sera entre 500 000 et 550 000 euros. Donc.
Bon, mais c'est quand même important
c'est
de voir
quand même
des,
un bon
des grands acteurs
de voir
qui.
Des promoteurs qui se positionnent comme ça sur ce créneau-là. Ils achèteront, en fait, ils porteront ces immeubles, ils vont les restructurer. Et donc, oui, c'est des signaux qui sont envoyés au marché. Voilà, le signal, c'est structurez-vous et avancez sur la réno, quoi.
Voilà donc pour cette volonté du côté de Bouygues. Bérénice, un mot du congrès de la FNAIM.
Tout à fait, le congrès de la Fédération Nationale de l'Immobilier qui s'est déroulé hier et avant-hier au Carrousel du Louvre. C'était la 76e édition. Donc je rappelle que la FNAIM, c'est un des trois syndicats des professionnels de l'immobilier. Et donc à cette occasion, la FNAIM, en association avec la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers, a présenté un tout nouveau baromètre. Le baromètre trimestriel des DPE, donc des diagnostics de performance énergétique. Alors, je rappelle que c'est un document qui permet d'indiquer la consommation énergétique d'un logement et ses émissions de gaz à effet de serre, notamment à travers les étiquettes énergétiques qui vont de A pour les mieux notés à G pour les mauvais élèves, dit les passoires thermiques. Donc, inquiétude et incompréhension sont là. Hein. Ce DPE ne laisse personne indifférent, que ce soit les professionnels ou les particuliers. Quasiment 2 millions de DPE ont été déjà réalisés entre janvier et septembre de cette année. Et grâce aux données de l'ADEME, donc de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la FNAIM a pu dresser en fait un panorama complet de la carte cartographie des DPE en France, ce qui permet en fait d'avoir une visibilité sur le parc immobilier français. Et alors, première conclusion de ce DPE, la répartition des logements énergivores sur le territoire est particulièrement inégale. On constate que certains territoires ont moins de 10% de logements classés F ou G. Donc c'est surtout autour de la Méditerranée, donc les départements du Var, Bouches-du-Rhône ou encore l'Hérault. D'autres territoires, en revanche, ont une part beaucoup plus importante de logements F ou G. Par exemple, la Lozère en a 41,5%. Alors, quand on fait un focus sur les villes, sur les grandes villes de l'Hexagone, le constat est plus parlant, il y a vraiment des disparités. Donc certaines villes bénéficient d'une très faible part de logements F ou G. Par exemple, Marseille, il n'y en a que 7,6, donc c'est assez peu. Toulouse, 9,4. Montpellier, c'est pareil, 7,7. En revanche, sur d'autres communes, c'est pas la même chose. Bon, par exemple, Paris, vous en parlez sur BFM Business, c'est 40% de logements F ou G. Il y a pire, Nanterre 50,3%, Épinay 56,4%. Donc ce qui est très intéressant aussi dans ce baromètre, c'est de voir que dans le top 10 des villes avec le plus de DPE mal notées, eh bien on s'aperçoit que ce sont exclusivement des villes de la petite couronne parisienne.
Ah.
Donc voilà, la petite couronne parisienne possède beaucoup de passoires énergétiques. Le neuf tire évidemment son épingle du jeu. Hein.
C'est plus simple pour eux.
Et bien sûr, on constate que donc les plus mal notés sont souvent des appartements ou des biens, des maisons anciennes. Mais alors il y a une particularité, c'est il faut constater aussi que la typologie de biens influe sur ces notes. Notamment, les petites maisons chauffées au fioul sont en général très mal notées. Voilà pour ce baromètre qui est très intéressant et donc qui va être publié chaque trimestre.
Bon, bah comme ça, on pourra suivre effectivement les évolutions géographiques de ces passoires énergétiques. Puisqu'on parlait tout à l'heure du CIMI et qu'on va continuer à en trouver. Après tout, c'est intéressant d'aller au CIMI,
Barbara. Oui, il faut y aller, oui, je vous invite à y aller.
Les implantations tertiaires, que souhaitent les utilisateurs de bureaux ?
Alors, ils souhaitent de la flexibilité et ils souhaitent remplir leurs bureaux.
Étonnant.
En fait, il y avait l'association des directeurs immobiliers, donc qui représente les utilisateurs, qui faisait une conférence hier au CIMI avec ICAD. Donc, pour donner les chiffres, sur les trois trimestres de 2022, on a près de 1,5 million de mètres carrés qui ont été placés. Placés, ça veut dire pris en location ou cédés. Et on a un peu plus de 4 millions de mètres carrés qui sont immédiatement disponibles à la vente. Ça veut dire qu'on a un taux de vacance de 7,5%. Ça, c'est les chiffres macro. Sur le terrain, ce qu'on voit, c'est que plus on est central, plus on est à Paris, plus on se rapproche du QCA, moins il y a de vacances. Et plus on s'éloigne de Paris, plus il y a de vacances. Les directeurs immobiliers, ils ont lancé un baromètre et ils expliquent bien qu'il y a moins d'appétence pour les directeurs immobiliers en première et en deuxième couronne parisienne qu'à Paris. Alors, ça, c'est pour les infos. Ce qu'ils anticipent pour les années à venir, parce que les directeurs immobiliers, ils sont un petit peu bloqués parce qu'ils signent des baux pour pouvoir occuper les logements, les bureaux. Donc, ils signent des baux 3, 6, 9. Donc, pour sortir du bail, pour quitter le bureau, il faut renégocier son contrat et souvent, on est bloqué par la durée. Donc, dans les 3 prochaines années, ils sont plus de la moitié, 51%, à anticiper une baisse de leur empreinte immobilière de un tiers, 31%. Mmh. Ça veut dire que ce taux de vacance, a priori, il va augmenter. Et ils sont un peu moins de la moitié, 41%, à rechercher plus de flexibilité dans leur patrimoine immobilier. Ce qu'ils veulent, donc, c'est déjà le remplir en réduisant l'empreinte. Et puis surtout, ce qu'ils veulent donner à leurs salariés, c'est des hubs de centralité. Donc, le développement d'offres de coworking, on en parlait la semaine passée avec Eric Tréguier de Challenge, qui disait que ça allait vachement se développer. Les directeurs immobiliers, eux, disent qu'ils cherchent des centres de corpo-working, donc des centres de coworking qui leur sont exclusivement dédiés. Des lieux hyper centraux, hyper connectés, où on se retrouve et on travaille. Mais ils cherchent aussi des back-office, des espaces qui sont déportés en justement deuxième couronne pour avoir des espaces de coworking dédiés aux salariés qui vivent un peu loin de la métropole parisienne ou des autres métropoles françaises. L'idée, c'est de pas travailler chez soi, de travailler dans un espace de coworking avec les salariés de son entreprise. Voilà, c'est ça qu'ils cherchent. Et ce qu'ils cherchent aussi, c'est le développement d'offres intégrée. Qu'est-ce que c'est une offre intégrée ? C'est d'avoir des acteurs qui sont capables de leur livrer un programme restructuré, de l'aménager, de le gérer et de leur offrir ces espaces de coworking et ces espaces déportés. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. C'est facile.
Bon, écoutez, pourquoi faire simple ? Marseille va pouvoir encadrer les loyers, c'est ça, Bérénice ?
Tout à fait. La ville de Marseille sera bientôt acceptée dans le club des villes qui encadrent leurs loyers. C'est notre ministre délégué à la ville et au logement, Olivier Klein, qui a donné son accord fin novembre dernier lors d'états généraux du logement de Marseille. Il en fera même, c'est ce qu'il a dit, une priorité pour son administration. Alors, le maire de Marseille, le socialiste Benoît Payan demandait depuis longtemps à pouvoir mettre en place des règles d'encadrement puisqu'il insiste sur le fait qu'il y a une forte tension sur le marché locatif à Marseille, une production de logements en forte baisse ces dernières années et une capacité des ménages à louer un logement qui reste très faible. Donc la régulation du marché, selon lui, est un impératif social. Donc on rappelle que l'encadrement des loyers concerne tous les logements dans les villes concernées, sauf HLM et logements conventionnés APL. Il est fixé chaque année un loyer minoré par l'État, un loyer de référence et un loyer majoré. Et tous les propriétaires doivent respecter ces données pour louer, que ce soit un meublé ou une location vide. Et alors, sont pris en compte pour fixer ce loyer de référence, eh bien, le quartier, le prix moyen au mètre carré, évidemment, la surface habitable, bien entendu, et l'année de construction du bien. Donc, Marseille va encadrer ses loyers, comme Paris, Lille, Lyon, Villeurbanne, Montpellier, Bordeaux et une quinzaine de villes de Seine-Saint-Denis.
Bon, on rappelle ce que disait l'économiste Lindbeck, le contrôle des loyers est le moyen le plus efficace de détruire une ville après le bombardement. Voilà. Bon, allez, on termine.
C'est dit.
C'est dit. On termine par Marie, qu'on salue. Hein, salut Marie. Barbara, avec le yucca du BTP.
Ah, je savais que ça allait vous plaire.
Ouais. Qu'est-ce qu'on met la façade de l'immeuble sur
non,
son portable
quand même pas. Et on connaît le. Là. C'est une start-up que j'ai rencontrée au CIMI, justement. Il faut y aller. Il n'y a pas que des gestionnaires, il n'y a pas que des promoteurs, il y a aussi des petites start-up. Et donc, qui s'appelle Upcyclea. Ce qu'ils veulent faire, c'est permettre aux bâtiments de devenir des banques de matériaux avec la réglementation environnementale 2020, donc qui vise à baisser les émissions carbone et qui va aller crescendo hein, en termes d'obligations. Il va falloir baisser l'empreinte carbone des matériaux qui sont utilisés pour construire les bâtiments et aussi utiliser des matériaux qui sont déjà existants, donc les réemployer ou alors utiliser des matériaux qui sont recyclés. Mais pour faire émerger ces matériaux-là, les recycler et les réemployer, il faut d'abord les sourcer. Et il faut savoir de quoi on parle. Alors, Upcyclea, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils proposent aux industriels de donner de la donnée, de la data, Upcyclea l'analyse et crée un passeport, donc ils appellent ça comme ça, c'est une fiche pour chaque matériau. Ça peut aller de ce banc, dalle de moquette, ça peut aller sur les fenêtres, les poutres acier, enfin vraiment, tout, ils ont 10 000 passeports. Et donc ces passeports, c'est assez étonnant parce que ils ont des petits pictos et dans ces petits pictos, ils prennent en compte la composition du matériau, l'impact que ça a sur la santé, est-ce que ça dégage des particules nocives ou pas. Ça prend en compte aussi le degré de recyclabilité et d'employabilité de ce produit-là. Est-ce que c'est un produit qui est issu du réemploi ou pas, ou du recyclage ou pas. Et puis ça inclut une donnée qui m'intéresse particulièrement, le poids carbone, la consommation d'eau qui a été nécessaire pour développer ce matériau et la consommation d'énergie, c'est l'empreinte environnementale. Et donc il y a des petits pictos et c'est classé, on peut classer en fonction.
Et donc du coup, un professionnel, il saura.
Par exemple, si un professionnel veut alléger le poids carbone, je ne sais pas moi, de ses poutres, il va cliquer sur l'onglet poutres, il va faire un classement par poids carbone et puis il y a toutes les poutres qui vont remonter. Il y a celles qui auront été abondées volontairement par les industriels, ils peuvent le faire gratuitement. Et donc ils développent cette bibliothèque qui est en accès libre en fait pour tout le monde. Vous pouvez y aller, Cédric, si vous voulez.
Super, je vais aller chercher une poutre métallique.
Exactement, décarbonée.
Ouais.
Donc ça permet.
Et par quoi faire cet après-midi?
Voilà, je vous donne des idées. Super. Ça permet de choisir le meilleur matériau. Ça permet donc de créer l'immeuble comme banque de matériaux parce que à côté de ça, il va créer une maquette numérique de l'immeuble et ça va permettre de localiser les matériaux. On va savoir où aller les chercher dans l'immeuble. Et puis il développe aussi une sorte de place de marché où il met en relation ceux qui proposent des matériaux à réemployer, ceux qui cherchent des matériaux issus du réemploi et même l'intermédiaire qui va nettoyer le matériau, le démonter, le stocker et l'apporter le moment venu sur le chantier.
Oui, parce que c'est pas très simple d'aller chercher au 8e les 2,50 m d'IPN qu'il nous fallait. Quoi.
Non.
Bon. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé ce matin. Donc, Bérénice Deville pour Radio Immo, Barbara Kirali pour Le Moniteur. Dans un instant, un petit détour par les marchés. C'est notre promesse à l'entame de chaque demi-heure. Et puis, Regard Croisé est à suivre.
C'était votre rendez-vous avec Empruntis, courtier en crédit et assurance. Empruntis.com, 160 agences partout en France.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.